Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Mounia El-Khotny autour du livre coécrit avec Maëlle Sigonneau, Impatiente, une exploration féministe du cancer du sein, paru aux éditions First. La rencontre est modérée par Marine Rouche, jeudi 10 février 2022 à la librairie Terra Nova.
Alors bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Mounia, bonsoir. Tu es anthropologue. Et tes recherches portent sur la santé et le genre au Mexique et en France, mais tu me corriges si je dis une bêtise. Tu as co-signé la réédition et réactualisation d'un ouvrage important qui datait de 1977, qui est Notre corps nous-mêmes et qui est sur la petite table à l'entrée, qui est un manuel de santé féministe et qui, je cite, pourra accompagner les femmes dans les différentes expériences de leur vie et les aider à se défendre. Contre les injonctions et les violences patriarcales dans la sphère intime, institutionnelle et publique. En 2019, tu as co-réalisé avec Maëlle Sigonneau un podcast dont on a beaucoup entendu parler parce qu'il a répondu à un vide sur le sujet, on le verra, qui s'appelle donc Impatiente, qui est une exploration féministe du cancer du sein. Et donc je le recommande à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore écouté parce qu'il est... Il est riche, il est touchant, il est révoltant. Et puis, il y a la voix de Maëlle Sigonneau, dont nous allons parler dans un instant, et tout au long de la rencontre, très certainement. Et donc, ce livre, Impatiente, c'est le prolongement de ce podcast-là. Ce livre, Mounia, tu le co-signes et tu le co-écris avec Maëlle Sigonneau, qui est décédée d'un cancer du sein en 2019, à l'âge de 34 ans. Elle était éditrice. Et après son diagnostic, elle a tout de suite voulu faire entendre sa voix sur ce sujet-là, sur le sujet du cancer du sein, et donc faire une exploration féministe. Donc Mounia, qui tu as bien connu Maëlle, est-ce que tu pourrais peut-être commencer, si tu le veux bien, par revenir sur la genèse de ce projet, sur ta rencontre, évidemment, avec Maëlle, sur les objectifs de ce projet Impatiente.
Merci, vous m'entendez? Ouais. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, je suis vraiment très heureuse d'être là. Merci Marine pour la co-animation. Alors, j'ai rencontré Maëlle fin 2016, j'animais une formation sur les inégalités de genre dans le milieu du numérique, puisque je suis anthropologue avec une spécialisation de genre et parfois donc j'anime des formations. Et là, on m'avait dit, bah voilà, c'est un milieu inégalitaire. Donc j'avais construit un parcours de formation et donc il y avait c'était uniquement des femmes et beaucoup qui étaient en reconversion professionnelle. Et donc Maëlle, je l'ai su ça plus tard, avait appris son cancer du sein, avait fait toute une partie de son parcours de soins, pensait qu'elle était opérable, elle allait se faire opérer, donc s'était dit bah je veux changer de carrière, etc. Et donc je l'ai rencontrée là et on est resté en contact avec elle et un groupe d'autres participantes parce qu'on parlait de féminisme, on avait des centres d'intérêt communs. Et 6 mois plus tard, elle m'a dit bah écoute, est-ce que je peux te parler? Et je lui dis oui, bien sûr, enfin, j'ai quelque chose en tête. Et donc là, elle me dit en fait, j'ai un cancer du sein. Et je ne savais absolument pas. Et j'ai remarqué des choses qui me dérangent dans la façon dont je suis prise en charge, dans le fait que la façon dont la maladie est traitée ou du coup son absence de traitement dans la société. Et elle avait déjà un peu déroulé son analyse et je lui dis bah moi je est-ce que voilà m'a proposé de travailler ensemble et moi mon médium c'est plutôt l'écriture en tant que chercheuse, donc on avait réfléchi à une série d'articles, on avait identifié des thématiques, et en fait on a fait un long entretien toutes les deux, et je me disais c'est quand même dommage que les personnes n'entendent pas elle vraiment sa voix parler, et voilà les rencontres diverses ont fait qu'on a finalement présenté un projet de podcast à Nouvelles Écoutes qui nous a suivi tout de suite. Et vraiment, elle avait aussi son projet de livre et on s'est dit que bah, finalement, on ferait d'abord le podcast et ensuite le livre. Et voilà, je suis vraiment heureuse aujourd'hui qu'on ait fait ce choix et Maëlle n'est plus là, mais en fait, vous pouvez l'entendre et tous les jours, enfin, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, j'ai des personnes qui la découvrent et qui l'entendent parler elle-même et sa colère dans sa voix et toutes ses émotions. Et donc, du coup, puisse continuer à faire sa rencontre, même si elle n'est plus là. Et donc, suite à son décès en août 2019, on était au milieu du projet du podcast. Et avec sa famille et la studio de production, on a décidé de continuer le projet puisqu'on avait déjà les thématiques qu'on voulait aborder. J'avais donc ce long entretien avec Maëlle où on touchait un peu ces thématiques, donc on avait aussi de la matière à travailler. Et donc on a continué les épisodes du podcast et il s'est fini fin 2019. Début 2020 et après j'ai continué le projet de livre qui est sorti donc en septembre 2021 où pour le coup le travail s'est fait à partir donc là c'est son père qui a travaillé avec moi, sa mère aussi, mais le travail d'archives a été chapeauté par le père de Maëlle, Frédéric Sigonneau, qui a fait un travail d'archives vraiment, chercher dans l'ordinateur de Maëlle ses notes, des échanges de courriers. Sa mère s'est occupée de toute la partie dossier médical aussi, donc ça demande aussi du courage et de l'amour et du dévouement d'aller chercher dans le dossier médical de sa fille, dénoncer les maltraitances. Et ses amis nous ont partagé des conversations pour avoir. Donc dans le livre, il y a les deux voix. Il y a Maëlle, qui à travers des messages, des textes qu'elle a laissés, aussi des extraits du podcast qui parlent de sa maladie. Et puis il y a ma voix à moi aussi, qui utilise l'approche anthropologique pour mettre en perspective, rencontrer d'autres personnes aussi. Donc toutes les deux, on porte de l'analyse, c'est pas un extrait. Et puis moi, j'analyse, c'est vraiment toutes les deux avec nos points de vue et nos expertises différentes. Et du coup, le livre reprend les thématiques du podcast en les approfondissant, puisqu'on a plus de place et en développant aussi certaines nouvelles pistes depuis que le podcast était terminé. Est-ce que je le détaille pour vous donner un peu une idée? Donc, dans le premier chapitre, on parle de l'annonce en fait et du parcours pour pouvoir faire reconnaître la maladie, donc plusieurs, donc Maëlle et d'autres femmes aussi, parce qu'elles sont situées, ce sont des femmes jeunes, avec une moyenne, enfin la moitié des femmes qui ont un cancer du sein ont 51 ans, enfin voilà, donc il y a vraiment moitié, donc les moins de 40 ans, enfin c'est 10%, donc voilà, c'est vraiment très particulier, donc les médecins ne s'attendent pas forcément à ce que ce soit un cancer du sein. Et donc voilà, le premier chapitre s'interroge sur la recherche de diagnostic et puis l'annonce en fait, et donc qu'est-ce que c'est que ce moment de l'annonce, les annonces dans le cas d'un cancer métastatique, donc qui devient chronique, qui demande des traitements continus tout le long de la vie. Ensuite, dans le chapitre suivant, on parle, ce qui a aussi fait l'objet d'un épisode du podcast, de ce qu'on a appelé les violences oncologiques. Moi, j'ai travaillé en tant qu'anthropologue sur la question des violences médicales et gynécologiques en particulier. Et donc, quand Maëlle est venue me voir en me parlant du cancer du sein, je me suis dit, c'est pas mon sujet. On a l'habitude d'avoir une expertise très très spécifique dans la recherche, et donc je me suis dit bon, moi je travaille sur l'accouchement, là c'est le cancer du sein. Il y a peut-être d'autres personnes mieux placées que moi. Un peu ce premier réflexe de syndrome de l'imposteur. Et en fait, plus on a parlé, et plus je me suis dit mais non, il y a un parallèle. C'est la médecine. Moi, j'étudie la façon dont la médecine traite les femmes, et donc on a construit ce terme en miroir de ce qui se faisait et ce qui monte depuis 2015-2016 sur les violences gynécologique, en se disant ben voilà, qu'est-ce qui se passe en oncologie. Et donc là, avec aussi dans ce chapitre la volonté de donner des pistes Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on a le droit d'avoir une personne en consultation avec nous. On a le droit de changer de médecin. En tant que proche aussi, aidante, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soutenir les personnes? Le troisième chapitre s'intéresse à la question de la féminité, qui est aussi quelque chose, bon, on en parlera, qui sous-tend notre travail, où en fait c'est un cancer qui touche à 99% des personnes assignées femmes, des femmes cisgenres, et donc du coup, ça donne un traitement très spécifique de cette maladie, où parfois vraiment on a l'impression que en restant une femme, en ayant les attributs de la féminité, c'est ça qui va nous faire guérir. Donc je m'intéresse à ce que c'est en fait la féminité et la place de la féminité dans le cancer. Dans le quatrième chapitre, toujours sur cette question d'être femme et de la façon dont on soigne les femmes, je m'intéresse au dépistage du cancer du sein et aux différents traitements, dont l'hormonothérapie. Dans le cinquième chapitre, on parle d'argent. Et en fait, c'est une maladie, mais en fait, c'est une maladie qui entraîne des coûts pour les patientes. Et du coup, à qui ça revient, cet argent ? Et dans le sixième chapitre, je parle du coup, mais du coup intime, social et personnel du cancer du sein, avec ce qu'une des personnes que j'ai interrogées a appelé la double, triple, quadruple peine. Donc la double peine, c'est d'être femme dans la société et puis de devoir aussi s'occuper des enfants. Donc la triple journée de travail. Et puis la quadruple peine, c'est quand on est malade. Et enfin, le dernier chapitre ouvre ce qui était aussi une volonté de notre travail avec Maëlle sur inclure le cancer comme une question de société et pas seulement circonscrite aux personnes concernées. Et donc, on l'a appelé la révolte gronde. Et je m'intéresse plus largement au cancer dans la société, à ses causes environnementales qu'on connaît mal. Et voilà, j'ai fait aussi des recherches sur la question de la santé environnementale. Et donc là, voilà, je voulais aussi poser des questions, je n'apporte pas forcément des réponses, mais ouvrir sur cette idée de militantisme.
Merci beaucoup. Et donc avant de rentrer un peu plus, enfin, ce qui va nous permettre de rentrer un peu plus dans le livre, est-ce qu'on pourrait peut-être parler du commenter le titre et l'illustration ? Parce que finalement, le titre et l'illustration, peut-être que vous voyez sur la table là, ils placent vraiment la question du temps au cœur du sujet, c'est-à-dire le temps qui passe, le temps dont on manque et le temps qu'on vole aussi aux patientes. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce titre-là et cette illustration ?
Maëlle avait déjà, oui, en tête ce titre et on cherchait en fait quelque chose de graphique pour montrer en fait le fait que c'est des patientes. En fait, on est tout à coup, on passe de une personne qui est une collègue, une amie, une mère. En fait, on devient une patiente. Et donc, il y a vraiment ce traitement médical et tout le temps passé à l'hôpital. Et puis, en même temps, ce que tu soulignes, cette notion du temps, Maëlle, elle disait tout le temps, en fait, moi, le temps, je ne l'ai pas. J'ai pas le temps. C'est un luxe. Et du coup, c'est aussi son trait de caractère. C'était aussi son trait de caractère, cette impatience, c'est dire les choses, être cash. On le retrouve dans son écriture aussi, les mots qu'elle emploie. Et donc, on a choisi de faire quelque chose autour de... On n'est pas les premières à le faire, mais en tout cas, ça correspondait à la fois à Maëlle et aux thématiques du livre. Après, c'est le studio qui a choisi, mais qui nous a fait des propositions graphiques. Et en fait, la première version du podcast, pour les personnes qui l'ont écouté dans les premiers épisodes, c'était un sablier. Et donc, finalement, nouvelles écoutes à refaire, tous ces logos de podcast et a choisi cette horloge. Mais c'est la même thématique, c'est plus moderne qu'un sablier. Et la couleur rose, il faut en parler, puisque vraiment, quand... Quand on a eu cette proposition de rose, moi, j'étais pas du tout emballée. Et parce que ce qu'on dénonce aussi, c'est on emballe tout dans du rose bonbon. C'est la couleur du cancer du sein, octobre rose, on va en parler. Maëlle, ça l'a pas trop dérangée parce que ce qui nous a au final convaincu, c'est ce rose énervé. C'est un rose qui se voit elle me disait c'est une couleur qui pète, qui du coup nous on est là pour aussi critiquer ce rose, donc on va pas s'interdire de s'en saisir. Donc voilà l'histoire du titre et du livre.
Merci. Et donc, finalement, ça fait la transition avec cette question de la féminité qui est beaucoup traitée dans le podcast et dans le livre. On entend beaucoup la voix de Maëlle à ce sujet. Maëlle et d'autres ont éprouvé un petit peu l'injonction chaque jour, l'injonction à la féminité chaque jour de sa maladie. Et dans un moment dans le livre, tu poses une question choc. Tu dis soigne-t-on le cancer ou la féminité ? Et c'est vrai que le cancer du sein semble être particulièrement concerné par cette importance accordée à la question de la féminité dans le parcours de soins. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, je vais du coup préciser, redonner le cadre, parce que voilà, je ne sais pas à quel point les personnes ont été confrontées, mais en tout cas, je pense qu'on a toutes et tous entendu parler d'Octobre Rose et vu le rose associé au cancer du sein, un ruban, et quand on pense... En fait, c'est le cancer en général, mais en particulier, c'est la deuxième cause de mortalité chez les femmes. La première étant les maladies cardiovasculaires, aussi parce que la façon dont on les détecte sont genrées et on détecte souvent pas chez les femmes. C'est un autre sujet, mais du coup, c'est quand même une cause de mortalité importante. Donc, ça cible les femmes. Et les effets secondaires des traitements, la chimiothérapie, la radiothérapie, donc la chimiothérapie, par exemple, certaines chimiothérapies peuvent créer une alopécie, donc perdre les poils, les cheveux, les ongles. La radiothérapie va brûler la peau. Et donc, les solutions qu'on propose sont... Et là, on s'appuie aussi sur le travail de la poétesse militante féministe Audre Lorde, qui a écrit dans son journal du cancer toute une réflexion sur la féminité. Et elle dit les solutions qu'on propose à des problèmes de santé sont des solutions esthétiques. Ça reste que de l'ordre du cosmétique. Donc, en fait, on va pallier remettant des perruques pour les cheveux, en insistant sur un certain type de maquillage pour pas montrer qu'il n'y a pas de sourcils ou les tatouer ou les dessiner. Et en fait, la question, c'est plutôt c'est pourquoi est-ce qu'on insiste sur ces aspects esthétiques ? Qu'est-ce qu'on essaye de cacher ? Et moi, je trouve que Maëlle a une parole très juste où elle dit « Bien sûr que ça me touche de perdre mes cheveux. » Bien sûr, je me regarde dans la glace, j'ai pas de cheveux. Mais en fait, est-ce que ça me touche en tant que, parce que c'est ma féminité? Ou est-ce qu'elle, elle dit, c'est, moi, ça me touche parce que c'est mon intégrité physique? Et il y a quelque chose, en fait, de l'intégrité du corps et du corps malade qu'on ne veut pas voir en société. Et donc, où les personnes vont être enjointes à cacher cela. Mais c'est fait de façon genrée, parce que les hommes sont touchés par les cancers aussi. Mais la façon dont on répond aux femmes, où on ne leur laisse pas la place de vivre la maladie comme elles le souhaitent, mais on leur propose des solutions uniques qui sont centrées sur la féminité, sur compenser un sein qu'on aurait enlevé par une prothèse ou une reconstruction pour garder une symétrie, compenser la perte de cheveux par des perruques. Donc il y a vraiment cette insistance sur tous les aspects de la féminité, une féminité qui est apprise des... Là, je renvoie au travail qu'on a fait dans notre corps nous-mêmes. On a tout un chapitre sur le genre. Dès la petite enfance, en fait, on le voit. Les petites filles savent très, très bien ce qu'on attend d'elles. Et ce qui est important, c'est ces aspects-là. Donc, quand ça arrive même à 30, 40, 50, 60 ans, le cancer du sein, en fait, on ne sait pas être autrement. On ne sait pas être femme autrement. Et donc, et c'est là aussi où il y a tout un marché là derrière. Mais du coup, peut-être que je me suis un peu éloignée, mais pour revenir sur cette question de la féminité qui est centrale et qui, en fait, d'autant plus... Je vais quand même continuer là-dessus parce que c'est pas uniquement dans le champ social, c'est aussi dans le champ médical. Et c'est ça qui m'interpelle. C'est-à-dire que des professionnels de santé, et là on a les témoignages des femmes et puis ceux aussi qu'on a sur les réseaux sociaux, vont dire aux femmes non mais ne vous inquiétez pas. Enfin, vont pas proposer des solutions médicales en fait. Vont elles aussi entrer dans cette question d'esthétique et de cosmétique. Et du coup, je trouve que vraiment ça interroge, puisqu'il n'y a pas de il y a aucune sphère qui est étanche à ces injonctions. Et on propose par exemple pas, ou c'est très difficile d'avoir accès à du soutien psychologique. Il y a pas tous les hôpitaux en proposent. Et puis même quand il y en a, pour prendre le rendez-vous, pour savoir, pour être remboursé. Donc un soutien psychologique, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les soins de support. Donc, ça va être des alternatives non médicales, mais voilà, de l'acupuncture, voilà, toute une série de médecines non biomédicales qui vont soulager les patientes. Et ça, ça revient. On avait fait un sondage sur le podcast et même dans les livres que j'ai lus sur le sujet et les personnes que j'ai rencontrées. Ça, c'est indispensable. En fait, ça aide avec les nausées de la chimio. Ça aide aussi à se sentir bien. Et en fait, tous ces soins-là, ils sont payants. Ils ne sont pas remboursés. Et donc, c'est des choses qui font du bien. Et en fait, voilà, la seule solution qu'on propose, c'est se concentrer sur l'aspect physique, alors qu'il y a d'autres choses. Et donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut arrêter de proposer des perruques. Maintenant, en fait, on a le droit de ne pas vouloir que tout le monde voit qu'on n'a pas de cheveux. Mais d'élargir, en fait, les offres et de laisser aux personnes la décision sur ce qui leur fait du bien et ce dont elles ont besoin.
Et y a aussi un passage qui m'a interpellée, c'est aussi, par le prisme de cette question de la féminité, tu questionnes aussi le racisme de cette industrie, notamment pour les perruques. Y a beaucoup de passages où des femmes qui sont concernées apportent leur témoignage, et donc c'est vraiment une analyse intersectionnelle, quoi. C'est une féminité bien précise. Dans une société bien précise.
Je peux donner l'exemple des prothèses. En fait, c'est donc une prothèse qu'on met dans le soutien-gorge, des soutiens-gorge spéciaux qui coûtent plus cher, pour avoir un deuxième sein, un effet de deuxième sein. Et en fait, ces prothèses-là, pendant longtemps, c'est vraiment très récemment, ça fait quelques années, elles étaient toutes pour des peaux blanches. Et donc, ça ne se voit pas, etc. Mais en fait, quand sur soi, déjà, voilà, on regarde son sein qui n'est plus là et on pose quelque chose. Déjà, c'est une prothèse. Donc, en plus, quand ça voit, ça tranche avec la couleur de peau. Et en fait, personne ne s'y était intéressé. Donc, il y a vraiment voilà, les perruques aussi. Ça coûte plus cher, en fait, si on veut avoir des cheveux qui ne soient pas des cheveux lisses. Donc, il y a vraiment cette notion, et tu fais bien de le souligner, d'une féminité idéalisée, qui est toujours la même, qu'on vend dans les magazines, qu'on retrouve dans plein d'endroits. Mais dans la question du cancer, elle est liée à celle de la santé. Et c'est ça qui est dur à démêler aussi.
Il y a aussi une réflexion sur Octobre Rose. Et donc, c'est lié à cette question de la féminité. Tu montres aussi qu'il y a vraiment un gros paradoxe, c'est-à-dire qu'on va essayer de vendre des produits qui sont dangereux et cancérigènes à des personnes qui sont déjà vulnérables et malades et qui sont atteintes d'un cancer. Et donc ça mène aussi à faire cette critique de la campagne Octobre Rose. Et je vais citer un petit passage de ce que Maëlle et toi avez écrit. Alors, octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein, au cours duquel il est enjoint aux femmes de se faire dépister. Sur tout le territoire français, des associations et des comités locaux de la Ligue contre le cancer organisent des ateliers, des concours photos et d'autres initiatives pour lever des fonds, pour la recherche et informer sur cette maladie. Mais c'est aussi le mois où toutes les entreprises, des fabricants de voitures aux chaînes de fast-food en passant bien sûr par les parfumeries, vont se draper de rose et proposer des activités ou des produits en faisant un lien, parfois douteux, avec le cancer du sein. Et donc, c'est là tout le problème autour d'Octobre Rose. Et ça mène vraiment à se questionner, enfin à questionner les motivations réelles d'une telle campagne. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment de reverser cet argent au laboratoire? Où va cet argent qui est récolté? Et enfin, est-ce que tu veux bien aussi nous parler des origines d'Octobre Rose? Moi, j'ai appris d'où ça venait. En fait, je savais pas du tout en lisant le livre, et peut-être que certaines personnes ne sont pas non plus au courant.
Oui, alors nous aussi, c'est en faisant le podcast, du coup, on avait regardé le documentaire de Léa Poule, L'industrie du ruban rose, qui a été fait au Canada. Et en fait, elle revient sur les origines d'Octobre Rose, où elle explique qu'au départ, c'est une initiative personnelle de Charlotte Ali, je crois qu'elle s'appelle, qui avait des femmes de sa famille qui avaient été atteintes du cancer du sein et se disait, mais en fait, où sont les messages de santé publique? Qu'est-ce qui se passe? On ne nous informe pas. Et elle se promenait dans les rues de New York avec des tracts, en fait. Et elle avait imaginé sur le modèle du ruban rouge du sida, un ruban couleur saumon pour dire, ben voilà, je suis en solidarité avec personnes qui ont un cancer du sein, et un peu créer ce mouvement. Et en disant, mais il n'y a que 5% du budget de la recherche alloué à cette question. Et Estée Lauder, le groupe, s'était approché d'elle en lui disant bah, « Écoutez, ça nous intéresse. C'est vrai, on est une industrie cosmétique où nos clientes sont... Ça fait sens aussi, hein, sont des femmes. On voudrait pouvoir les sensibiliser. » Sauf qu'en fait, le projet qu'ils lui ont présenté ne convenait pas du tout à ce qu'elle avait en tête. Elle sentait que ça allait être récupéré pour juste vendre plus et pas vraiment avoir cette dimension d'information, de sensibilisation. Donc, elle a refusé ce partenariat. Et ce qu'a fait Estée Lauder, c'est qu'au lieu d'avoir un ruban saumon, ils ont mis du rose et ils ont lancé. Donc, en fait, au départ... Même si au départ, c'est une personne individuelle, là, quand on a entendu parler à l'échelle voilà, des États-Unis, puis ensuite c'est arrivé en France dans les années 90, c'était par une industrie cosmétique qui a commencé Octobre Rose. Et je pense que c'est effectivement important de le rappeler pour questionner les intérêts. C'est des modèles d'entreprise qui fonctionnent parce qu'elles vendent et qu'elles font des bénéfices. Donc en fait, si quelque chose les intéresse, et aujourd'hui on le voit avec le féminisme sur des t-shirts H&M, du coup en fait c'est partout. Et du coup c'est qu'il y a quelque chose en fait à récupérer pour ces entreprises là. Et Octobre Rose, dans l'extrait que tu lis, hein, je dis que c'est à la fois, et on avait fait avec l'illustratrice Lillison, qui a aussi qui a une bande dessinée sur le cancer du sein, où elle parle de son cancer. On a fait un live Instagram début novembre, après Octobre Rose, où on soulignait que à la fois, c'est un mois où on peut parler du cancer, où c'est vraiment le sujet... On peut en parler, il y a de l'attention, donc c'est aussi un moment où il y a une attention médiatique, où on peut demander des financements pour organiser des événements. Donc il y a tout cet aspect positif, sensibiliser, expliquer. Et en même temps, c'est en cherchant sur Internet, enfin voilà, Octobre Rose, vous voyez, voilà, je disais des voitures, des burgers roses où vous avez. Et en fait, on ne sait pas où va cet argent parce que c'est des produits qu'on fait payer plus cher. Où on dit une partie sera reversée à la recherche, mais en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière la recherche. Et souvent, ça mériterait une enquête journalistique que je n'ai pas faite, souvent en fait c'est reversé à donc l'association Cancer du sein Parlons-en, qui maintenant s'appelle Ruban Rose, où il y a Estée Lauder et d'autres groupes qui récupèrent l'argent donc de, j'en sais rien, les Galeries Lafayette ou plein d'entreprises qui font ça. Et ensuite cette association organise des ateliers, par exemple, de beauté ou d'autres choses. Mais en fait, ça transite par l'association. Ça ne va pas directement. Ils financent aussi des programmes pour des partenariats avec des instituts, des oncopoles, etc. Mais c'est très opaque, en fait. Et au final, j'en avais parlé sur Twitter, mais je redonne ici un exemple très concret où j'ai une connaissance qui vend du textile, en fait. Elle est fournisseuse et du coup, elle fabrique des chaussettes. Et elle a une boutique qui lui achète, qui lui a dit en fait, cette année, pour Octobre Rose, je voudrais proposer de reverser 1 € sur chaque paire de chaussettes achetées à une association. Donc, je vous demande, mes fournisseurs, de baisser vos prix. Et du coup, elle était embêtée parce qu'à la fois, pour elle, c'est une cliente importante. Et donc, elle voulait pas non plus. Elle m'a demandé qu'est-ce que je peux lui répondre, pas la perdre. Mais elle disait, c'est dégueulasse en fait. Elle va avoir une bonne image. Les clientes qui vont acheter vont se dire, je fais quelque chose de bien, je paye 1 € de plus. Et moi, en fait, je vais baisser mon coût. Et donc, voilà, je trouve que c'est hyper parlant. Et je lui dis, tu peux lui dire que. Au lieu de faire ça, elle peut-être récolter moins d'argent, mais le garder et organiser un groupe de parole ou se renseigner auprès de l'hôpital le plus proche ou voilà, donner directement de l'argent ou à une association qui fait de la sensibilisation ou acheter des perruques et les donner à des femmes qui ne peuvent pas se les payer. Enfin, il y a quand même pas mal d'idées. Mais ça demande du temps, de l'investissement et de faire cette recherche-là. Alors que donner de l'argent, entre guillemets, ça semble quand même assez, plus simple, quoi. Donc voilà ces interrogations qu'on pose autour d'Octobre Rose, avec aussi une autre chose que je voudrais ajouter, qui est que cette grande visibilité, en fait, j'ai lu un article du New York Times, et j'en parlais avec Lillison sur le sujet, où des femmes qui sont en traitement pour un cancer du sein disent déjà moi, au moins, j'ai pas envie. C'est pas parce que c'est octobre que tout le monde va me... voilà. Tout à coup, je dois parler de ma maladie. En fait, j'ai pas envie. Et ensuite, il se passe quoi? C'était aux États-Unis. Donc, en fait, elle disait, octobre est fini, c'est novembre. Novembre, c'est quoi? C'est Thanksgiving. Donc, en fait, le rose, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur le cancer du sein. Il y a les décorations de Thanksgiving. Après, c'est Noël. Et après, les gens, ils ne veulent pas que tu viennes à table au repas de Noël et que tu parles de ton cancer. Donc, se laisser imposer ce rythme-là capitaliste de segmenter de quand est-ce qu'on peut parler de notre maladie, c'est aussi quelque chose qu'il faut interroger, je pense. Je parle beaucoup, mais je suis là pour ça, du coup.
Non. Non, mais justement, ce que tu viens de dire là sur cette question de il y a un mois dédié à ça, puis après on passe à autre chose, etc. Ça me fait penser aussi à la réflexion qui traverse un petit peu le livre sur, en fait, la maladie, il faut la cacher parce qu'elle fait peur. Donc il faut avoir une certaine attitude pour essayer de ménager un petit peu son environnement, enfin ses proches, pardon, son entourage, alors que la personne qui est malade, c'est elle de faire des efforts en fait pour se cacher ou cacher sa maladie. Et ça, c'était vraiment... Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait aussi sur la féminité. C'est-à-dire qu'il y a des pages où tu expliques que, justement, cette injonction à la féminité, ça sert aussi à cacher la maladie. Ou, je ne sais pas si je traduis bien ce que tu dis, mais bon, voilà, cette peur un petit peu de la maladie, je ne sais pas si tu veux en parler.
Oui, c'est pour ça que la citation qui ouvre le livre, c'est une citation de Maëlle qui dit « À force de cacher la maladie, c'est toute la société qui se met la tête dans le sable ». En fait, ça nous concerne toutes et tous. Et quand on regarde l'incidence, une femme sur 8 au cours de sa vie aura un diagnostic de cancer du sein, en fait, il y en a forcément autour de nous. Et donc, si ces personnes-là... Et ça, c'est que le cancer du sein. Donc, en fait, si on élargit... Et donc, c'est un livre qui part du cancer du sein pour parler du cancer et des maladies chroniques, notamment sur la partie sur le travail. Mais si on se dit que toutes les personnes qui sont en traitement pour un cancer ne cachaient pas les effets sur leur corps et étaient visibles, eh bien, en fait, ça ferait quelque chose, en fait. On serait obligé de se dire il y a quelque chose, on est confronté. Et l'Organisation mondiale de la santé a classé les cancers comme, enfin, a qualifié ça d'épidémie, les cancers et les maladies chroniques. Et donc, même s'il n'y a pas le côté transmissible, il y en a tellement, la prévalence est tellement grande partout dans le monde qu'en fait, on devrait s'y confronter comme une épidémie. Ça, c'était avant le Covid. Et on voit comment on réagit à une épidémie pandémie. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça pour les cancers. On continue le fait de cacher. Donc effectivement, la féminité sert à non seulement réassigner les femmes et leur rappeler que ce sont des femmes, et je pourrais développer sur ce que ça implique socialement, mais aussi à... Donc la féminité sert à cacher, mais aussi du coup à ne pas se confronter à ça et à continuer à penser que c'est une maladie individuelle. C'est ah ouais, c'est pas de chance, ah ben oui, ça arrive. Mais en fait, il y a certains cancers qui sont génétiques, qui ont des origines génétiques, mais les autres. Et donc là, s'oppose, c'est pour ça aussi qu'on a amené la question de l'environnement et c'est des recherches très difficiles à mener puisque c'est multifactoriel et c'est ça qui est renvoyé quand on étudie les perturbateurs endocriniens, les pesticides, la pollution de l'air. En fait, nos corps sont en permanence en interaction avec ces produits chimiques. Si on ajoute les déodorants, là, ça a été ressorti récemment, c'est des études qui ont montré qu'il y a un lien avec le cancer du sein. Donc, en fait, du coup, c'est tout ça. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas dire... Et c'est le cocktail chimique, c'est ce que les chercheurs et chercheuses appellent un cocktail chimique, qui fait qu'il y a ces maladies-là. Et en fait, ça sert d'argument pour ne pas avancer, parce qu'on n'arrive pas à savoir quel facteur c'est.
Oui, on reparlera tout à l'heure de ce qui peut être mis en place justement pour lutter, pour se sensibiliser, etc. Mais d'abord, il y a aussi quelque chose qui est très important dans cette investigation, parce qu'elle fait la place aux expériences vécues des premières concernées, et c'est le fait de nommer et de visibiliser ce que Maëlle et toi avez appelé, ce que tu as dit tout à l'heure, des violences oncologiques. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu sur ça, et j'en profite aussi pour poser une autre question qui est liée, mais peut-être un peu plus pratique, mais tout aussi importante, je pense, à poser ce soir. C'est si on est victime ou témoin de violences oncologiques, quels sont les recours? Parce que c'est vrai que sur le moment, on est sans défense et sans solution.
Maëlle décrit une expérience d'une biopsie forcée, où elle a refusé, où elle a exprimé son refus d'acte et où le médecin, le praticien a persévéré et où elle a été blessée physiquement puisqu'elle a saigné. Et donc ça, c'est, voilà, c'est une agression physique de la part de quelqu'un disposant d'autorité, d'un médecin. Et donc, à partir de ça, on a commencé à réfléchir à ce type de violences qui sont, et on a voulu les nommer violences oncologiques, puisque le fait d'avoir un cancer, une maladie chronique, en plus la chronicité de la maladie, fait qu'on va être confronté à beaucoup, beaucoup de soignants et de soignantes. Et donc la probabilité de vivre des violences va être augmentée. Et on est confronté à ces personnes-là parce qu'on a un cancer. Donc on voulait le lier à l'oncologie. Et ces actes-là que nous, on a choisi d'appeler aussi des actes de passage. Voilà, la routine pour ces personnes-là, c'est de la routine, une prise de sang, une biopsie. Et donc, en fait, là, c'est des personnes qu'on ne va jamais revoir. Ce qui est différent d'une relation voilà, avec l'oncologue qui nous suit, les chirurgiens qu'on voit un petit peu plus, mais on voit une myriade d'autres personnes. Et du coup, pour eux déjà, pour elles et eux, c'est de la routine. Et donc... voilà, la maltraitance se glisse là-dedans. Et en plus, il n'y a pas d'enjeu puisque c'est des patients-patientes qui sont anonymes. Donc, on a voulu ancrer ça dans la question de l'oncologie pour aussi pouvoir élargir cette question des violences et des maltraitances à d'autres moments du parcours de soins. Et donc, parler de maltraitance institutionnelle, du fait de la vulnérabilité dans laquelle on se trouve. En fait, la fatigue... de la maladie, la peur en fait de mourir fait qu'on est plus vulnérable face aux soignants et aux soignantes. Et Maëlle, donc dans le chapitre 2, on parle d'un moment où en fait Maëlle avait vraiment besoin d'assistance pour tout et donc a été oubliée dans un couloir sur une chaise roulante pendant 2 heures. Enfin voilà, il y a en fait toutes ces choses-là sont liées à la maladie et aussi à la façon dont fonctionne l'hôpital. Et là, pour le 25 novembre, la Journée internationale de lutte contre les violences de genre, j'ai proposé un cortège violences oncologiques pour vraiment montrer que voilà, c'est des violences aussi dans le cancer du sein qui touchent les femmes. Et donc, on était 5, mais c'était donc à Paris. Mais je sais qu'il y a aussi une personne qui était à Toulouse avec sa pancarte et à Pau. Et en fait, du coup, ça a parlé à d'autres femmes et qui commencent à raconter. Mais c'est vrai que quand ce moment du cancer du sein est derrière soi, on n'a pas forcément envie d'y replonger. En fait, les personnes ont envie de se dire, bon ben voilà, je suis en rémission puis guérie. C'est difficile. Et donc, non seulement déjà de reparler de son cancer, s'y replonger, c'est douloureux. Donc, en plus, aller chercher des violences qu'on a vécues dans le parcours, ça l'est encore plus. Donc, la parole autour de ça est difficile aussi à faire naître et à évoquer. Donc ça, c'est sur la question des violences oncologiques. Et donc, ce qu'on propose, en fait, c'est... je voulais aussi que dans ce chapitre, il y ait des choses concrètes qu'on puisse faire. Et vraiment, bon, là, en plus, avec les restrictions Covid, ça dépend des lieux. Mais il y a plus d'accompagnants. Enfin, moi, j'étais dans un service de pédiatrie. Il n'y avait qu'un seul parent qui pouvait être là. Et donc, ça aussi, ça pose d'autres questions. Parce que si on est concentré sur son enfant, on ne peut pas être en mesure de s'adresser correctement aux professionnels. Et en fait, quand on est là, ce que me disaient les femmes que j'ai interrogées, pour elles, c'était indispensable d'avoir quelqu'un avec elles en consultation, parce qu'elles n'allaient pas se rappeler de tout ce qu'on dit, pour pouvoir être sûre qu'on pose les questions, et aussi avoir une troisième personne dans la pièce, ça change la dynamique. Ça, déjà, rien que d'avoir une troisième personne, ça réduit les risques de violence. Et en plus, après... cette personne-là peut vraiment décrire précisément des faits ou ce qui a été dit. Donc ça, c'est un conseil. C'est pas forcément quelqu'un de la famille ou quoi. C'est une personne choisie qui a droit de nous accompagner en consultation. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et ensuite, demander son dossier médical. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est un droit. Et là, bon, je le redis, parce que dans les violences obstétricales, dans l'accouchement aussi, enfin voilà, on peut demander notre dossier médical, mais partout, en fait. C'est notre droit et on peut demander, dire qu'il y a des choses qui manquent. Et donc ça, ça donne aussi un poids. Et puis après, il y a tout ce qu'ont fait les parents de Maëlle, c'est-à-dire saisir l'institution. demander une médiation, faire des courriers à la direction et voilà, et dénoncer publiquement. Il y a toujours cette peur aussi de la diffamation, mais en fait si on parle juste des faits et d'une chose très précise à l'institution, ben ça peut, si plusieurs personnes écrivent et qu'il y a un courrier qui arrive, ben la personne concernée peut recevoir un blâme, avoir une sanction. Donc ça c'est après, mais en amont, être informé. Et ça, c'est aussi difficile. C'est un conseil théorique, mais et de pouvoir changer de praticien, ce qui n'est pas toujours possible parce que bah, ça veut dire recommencer avec quelqu'un d'autre, les délais. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que, enfin, on a besoin, il y a le temps. On a détecté, il faut aller vite. Mais c'est quelque chose qu'on est en droit de le faire. Et ça, c'est pour n'importe quel praticien, praticienne. Si on n'est pas à l'aise, si on sent que voilà, ça ne va pas, eh ben on a le droit de changer. Mais c'est pas toujours faisable en pratique, mais on ne le sait pas. Donc je le dis parce qu'on a le droit. Et Martin Vinclair dit même, en fait, vous partez sans payer. Si jamais la consultation s'est mal déroulée, qu'il y a quelque chose qui... C'est difficile. Et puis, enfin, voilà. Mais moi, la première, hein, je connais ces mécanismes, je travaille dessus. Ça m'est déjà arrivé de laisser passer des choses en consultation et de me dire, mais merde, quoi. Enfin, il y a ce pouvoir, il y a cet effet blouse blanche qui existe. Mais parler entre nous aussi, parler voilà, entre personnes concernées ou pas, juste avoir d'autres personnes à qui on peut en parler, c'est aussi, ça sert de prendre du recul, de se rendre compte ce qui était normal et ce qui était moins normal.
Et justement, ces violences-là, elles commencent très tôt dans le parcours, dès avant le diagnostic, en fait. Et donc, il y a toute une partie qui comble un vide dans ce livre-là. C'est toute la description de cette période-là qui précède l'entrée dans le parcours de soins. Donc, depuis la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, l'inattention des médecins lorsqu'on est jeune, comme Maëlle, parce que c'est pas possible qu'il s'agisse d'un cancer à cet âge-là, le sexisme qu'on a déjà évoqué, ça doit être dans la tête, bon, voilà. Et puis l'annonce du diagnostic qui est souvent brutale et sans précaution. Alors est-ce que tu peux nous parler de ça, justement de cette période-là, avant le diagnostic et avant en fait la prise en charge officielle? Et d'ailleurs, est-ce que tu parles de violence oncologique pour cette période-là avant ce diagnostic?
Moi, je le considère plutôt comme autour du... Je le lis au sexisme médical et au sexisme en général, où en fait... effectivement, les femmes sont plus... leurs douleurs sont psychologisées. On le voit dans l'endométriose, dans la sclérose en plaques, dans le cancer du sein, qui n'est pas dans les, voilà, dans les attentes en termes d'âge, etc. Et donc, on le voit, j'ai plus les chiffres en tête, mais en fait, au niveau des prescriptions des psychotropes, les femmes, je crois que c'est deux fois plus que les hommes ou trois fois plus sont en prescrites, parce que quand on ne trouve pas, on dit que c'est dans leur tête. Et donc, moi, ça, je le lis... au stéréotype sexiste, de l'hystérique, de celle qui exagère. Et là, on revient à la question aussi de l'intersection avec le racisme et donc le syndrome méditerranéen, qui est un stéréotype raciste et sexiste qui dit que les femmes noires, arabes, du bassin de la Méditerranée, femmes racisées, exagèrent. Et donc, en fait, tout ça fait que quand les femmes arrivent dans les cabinets de consultation, bah, elles sont pas, notamment dans les retards de dépistage, les femmes sont socialisées pour s'occuper des autres et donc laisser leur douleur, d'autant plus quand il y a des enfants, quoi, après. Donc, voilà, quand elles y vont et qu'on leur dit... Mais non, c'est rien. Elles n'ont pas, en fait, elles n'ont pas le temps, encore une fois, pour le coup, aller consulter quelqu'un d'autre. Dire. Donc, quand vraiment elles y vont, c'est qu'en fait, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, c'est ce qu'a vécu Maëlle, où le médecin lui a dit non, mais pas d'antécédents dans la famille, 29 ans, enfin bon, enfin, on ne fait pas un cancer. Et en fait, elle a perdu 9 mois. Et à quel point, en fait, quand elle se rend compte que c'était une tumeur de 10 cm, et elle se dit comment est-ce que. Comment est-ce que j'ai été formatée pour ne pas sentir une boule de 10 cm dans mon sein? Je veux dire, à quel point est-ce qu'on nous a voilà, fait croire qu'on ne valait rien, que nos jugements sont faux, etc. Donc il y a toute cette partie de parcours de la combattante qui revient assez régulièrement voilà, dans d'autres maladies et dans... dans les cancers du sein qui sont chez les femmes jeunes, donc voilà, pas dans la moyenne d'âge. Et ensuite, la question de l'annonce qu'on développe aussi, elle touche, oui, à un certain paternalisme médical, un emprunt de sexisme où ben, les médecins ne sont pas formés. Les médecins, ils ne sont pas formés, en fait. Là, je prêche pour ma paroisse, mais en fait, on essaye hein, d'avoir des cours d'anthropologie de la santé, de pousser, en fait, cette approche de sciences humaines, de mettre les patients, les patientes au centre du expert et experte de leur maladie, au centre du parcours de soins. Mais en fait, il n'y a pas ça dans les formations de médecins. Ou sinon, c'est là, il y a un DU que la gynécologue Laura Berlingot est en train de lancer sur les violences gynécologiques. Mais c'est son initiative, c'est un DU, c'est en plus, en fait, un diplôme universitaire. Donc, c'est vraiment pas du tout. Et là, dans le chapitre où j'en parle, le chapitre 1, je m'appuie sur les travaux d'un chercheur au Canada qui disait qu'il manque la communication. En fait, ils ne sont pas formés à communiquer. Et donc, les annonces sont très brutales. Il y a un protocole. Ça, pour le coup, la Ligue contre le cancer avait vraiment fait un travail en France d'aller chercher l'expérience des patients. Je crois que les patientes en cancer du sein donnent 6 sur 10, en fait, en moyenne à leur parcours. Et donc, il y a un protocole qui avait été mis en place il y a quelques années, mais qui est dans les faits pas respecté, mais juste, en fait, être en face de la personne. Maëlle, le médecin était de dos, après avoir eu les résultats de la biopsie, je crois. Et elle a juste entendu, l'Institut Curie, prenez-la en urgence, quoi. Donc elle s'est dit, ah oui, j'ai un cancer du sein. C'est comme ça qu'elle a pris un cancer du sein. Il y a une autre ancienne patiente, Cynthia K, qui est sur les réseaux sociaux et avec qui je vais organiser une table ronde. Elle, c'était un mail de sa médecin. Elle était au travail, elle regardait ses mails et en fait, on lui a annoncé comme ça qu'elle avait un cancer. Donc en fait, là, plus à chaque fois qu'on creuse, on trouve comme ça des histoires. Et donc ça, c'est violent. Et les médecins que j'ai pu rencontrer souvent se retranchent sur c'est la mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, c'est difficile à entendre. Donc, en fait, nous, on n'est que les messagers et les patients-patientes mélangent le messager et le message. Bon, moi, je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des médecins qui arrivent à être humains et à humaniser ce moment et à prendre le temps, et il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc, c'est que c'est possible, en fait. Et dans la question des violences, que ce soit gynéco, oncologique ou violences médicales en général, c'est aussi cet argument auquel je réponds. S'il y a des sages-femmes qui, malgré les conditions de travail terribles, la fatigue et la maltraitance qu'elles-mêmes vivent en tant que professionnelles, arrivent à accompagner des femmes humainement, c'est que ce n'est pas des excuses, en fait. Donc, voilà. Je le dis.
Et on peut renvoyer au Brut en blanc de Martin Vinclair, qui analyse vraiment de ce processus-là. C'est dense, mais c'est très intéressant. Et il y a aussi une réflexion que tu mènes sur les campagnes de dépistage. Et ça, je pense que c'est aussi important d'en parler, parce que je retiens ce passage où tu dis qu'à partir de 50 ans, je crois, les femmes reçoivent un courrier de la part de la Sécurité sociale les invitant à faire un dépistage du cancer du sein. Et à partir de là, tu dis, elles ont été prévenues et si elles n'y vont pas et qu'elles ont un cancer, c'est leur faute. Donc il y a une sorte de culpabilisation là de la part de l'institution. Et ensuite, donc pour certains, ces campagnes de dépistage, c'est vraiment la clé de la lutte contre le cancer du sein. Pour d'autres, c'est pas une approche satisfaisante. Alors, comment on fait le point sur ce sujet-là ?
Oui, c'est vraiment un sujet épineux, la question du dépistage. Et en écrivant ce chapitre, j'ai vraiment essayé de donner un maximum d'informations. Moi, mon point de vue, ma posture, c'est toujours donnons de l'information. Ça ne suffit pas, en fait. Tout le monde ne peut pas en fait, lire les études scientifiques. Il y en a qui sont en anglais. Mais en fait, du coup, si les personnes veulent vraiment être actrices et prendre une décision, accompagnons-les au mieux. Et d'ailleurs, je cite une étude aux États-Unis où, pour le coup, c'était pour des femmes plus âgées, où il y avait un outil d'aide à la décision sur les bénéfices-risques de faire une mammographie. Et c'était des femmes de 70 ans. Et en fait, les femmes qui ont été accompagnées dans la décision, en plus grande proportion, refusaient de faire la mammographie que celles à qui on avait juste envoyé un courrier. Donc il y a un effet, quel qu'il soit, qu'elles y aillent plus ou qu'elles y aillent moins. Et donc sur la question du dépistage, en fait, la stratégie qui est mise en place, c'est dépistons plus de femmes pour détecter plus de cancers. et les soigner plus tôt. Et donc, si on les prend plus tôt, en fait, ils sont mieux soignés, plus facilement, mieux guéris. Et ça, c'est critiqué. Mais depuis longtemps, il y a une controverse internationale sur le sujet où, en fait, si on regarde les chiffres de mortalité du cancer du sein, ils n'ont pas vraiment diminué. Les pourcentages ont diminué parce qu'on en détecte plus. Mais en fait, il y a autant de femmes qui meurent. Mais donc, si on en détecte plus en proportion, ça fait qu'il y en a moins qui meurent. Mais les chiffres, en fait, bruts, n'ont pas vraiment bougé. Et donc, ce qui se passe quand on détecte plus tôt, c'est que on voit... les seins sont denses et c'est pour ça qu'avant 50 ans, c'est ça pour le coup, les études sont assez unanimes là-dessus. C'est pas recommandé une mammographie puisque c'est très difficile de distinguer voilà ce qui est une tumeur ou ce qui est un tissu dense. Et lorsqu'on fait des mammographies très précoces, en fait, il y a une proportion de femmes à qui on va dire que c'est une tumeur, mais on ne sait pas si elle va être cancéreuse. Et donc, dans le doute, on va la traiter. Dans le doute, on va faire le combo chimio, radiothérapie, parfois même tumérectomie, etc. Et donc, la question aussi au niveau individuel, enfin, voilà, de prendre cette décision en sachant les conséquences et ce que ça va impliquer en fait, pour la vie. Parce qu'en fait, les femmes à qui on dit ça après coup, elles se disent, bah, en fait, ça se trouve, ce n'était pas cancéreux. Mais on ne leur a pas laissé le choix en fait, de est-ce que je ne fais rien ou est-ce que je fais ce traitement, connaissant les coûts du traitement. Et au niveau en fait, populationnel, donc, là, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à faire ça. C'est coûteux en termes de matériel, etc. Moi, encore une fois, ma posture, c'est de dire informons. Voilà, informons de ça, des bénéfices, des risques. Laissons prendre les décisions aux personnes. Mais du coup, voilà, le courrier, s'il y a eu aussi de l'amélioration, parce que le courrier de la Sécu, donc j'ai regardé celui que ma mère avait reçu l'année où j'écrivais le livre, l'année dernière. Et du coup, il y avait un petit annexe avec ce genre de questions. Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y a des risques? Quel est le pourcentage, etc. Mais c'était pas très détaillé. C'était quand même un peu biaisé sur allez vous faire dépister. Et là aussi, c'est qui va pouvoir en fait se poser toutes ces questions-là. Et il y a, je cite, je l'avais interrogée pour le podcast et je cite son étude de la docteure Charlotte Ngo. Elle mène une étude sur la question de la littératie en santé. Et donc, qui est à même à la fois de comprendre ce que donnent les informations que donnent les médecins et de pouvoir aussi exprimer et poser ces questions. Et donc ça fait que bon, bah, quand on reçoit le courrier, on est plus ou moins prompte à y aller ou à laisser passer parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà, on a un travail prenant, on est une femme, famille monoparentale, c'est des femmes, enfin bon, vraiment, voilà. Et donc, de ne pas saisir non plus les enjeux qu'il y a derrière à se faire dépister ou à ne pas se faire dépister. Donc ça, c'est, voilà, je le dis un peu rapidement, mais j'essaye vraiment de naviguer, de détailler, de voir ce qui se fait, voilà, les études qui ont été menées là-dessus. Et dans le podcast, c'est dans le livre, j'ai repris une citation de Martin Winkler qui, lui, il va Franck du Collier, si vous connaissez ses écrits, voilà, comme dans Les Brutes en Blanc, mais il me dit, en fait, le dépistage, c'est bénéfique pour qui? Pour les laboratoires ou les entreprises qui vendent des machines de dépistage, qui vendent les traitements, enfin, voilà, il y va. Et là aussi, je pense qu'il y aura vraiment une enquête à mener, mais en tout cas, voilà, réfléchir en termes de santé, de choix individuels, dans la mesure du possible, de faire un choix éclairé, et aussi, voilà, en termes de population. Et donc, ce qui se passe aussi, et j'en viendrai du coup à la fin, on voulait terminer là-dessus pour avoir la question, c'est que en mettant l'accent sur cette idée de la prévention, la France dit, on fait notre job. Nous, on fait le job, on prévient les femmes, on les dépiste, voilà. Et donc, la prévention, c'est ça. Alors que non. Enfin, la prévention, c'est pas ça. La prévention, c'est réfléchir, et donc c'est, enfin, en tout cas, mon avis, cette augmentation des cancers chez les femmes jeunes, de cancers du sein aussi en général, de voilà, ce à quoi on est exposé, et pas uniquement bon, bah, les comportements individuels comme fumer, mais du coup, bah, l'air qu'on respire, la pollution, enfin, j'ai encore vu des chiffres là récemment, le nombre de morts par an en France de la pollution, enfin, de l'air. Du coup, en fait, prévenir, c'est réfléchir en tant que société comment éviter que ces maladies apparaissent. C'est pas les détecter le plus tôt possible pour les soigner. Enfin, il faut aussi travailler sur le soin, mais cette question de la prévention, elle passe sous le tapis. Et je détaille dans le dernier chapitre les différents plans cancer, les différentes initiatives autour du cancer qui ont lieu en France. Et c'est encore voilà, on y va vraiment tout doucement sur la question de l'environnement, qu'on associe encore à la question des comportements. Et Maëlle avait confronté une personne de la mairie de Paris à un événement en lui disant « Mais alors, l'environnement ?» Et il lui avait répondu « Alors oui, on travaille sur l'environnement, hein, la cigarette, l'alcool. » Mais non, ça, c'est des comportements. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et là, je voulais vous parler, j'ai vu récemment la Ligue contre le cancer a fait une liste en fait de besoins ou voilà de ce qu'il faut, ce qu'elles aimeraient voir mettre en place sur la question du cancer. Et donc ensuite sur le site il y a une checklist par rapport aux candidatures à la présidentielle, demander un engagement et aussi voir quel programme s'y confronte. Et en fait voilà, c'est encore un sujet malgré les différents plans cancer, il y a c'est encore assez peu traité, quoi. Il n'y a pas d'argent pour la recherche. Il n'y a pas de réalisation, vraiment de signaux envoyés, de prise en compte de cette thématique. On fait reposer sur les individus. Comme tu disais, vous avez eu le courrier. Vous n'êtes pas allé vous faire dépister. Vous fumez. Vous habitez à côté d'une zone polluée. Bah, en fait, on ne choisit pas. Voilà.
Et il y a aussi une autre question qui n'est pas prise en charge ou ignorée par les politiques publiques, c'est celle de la précarité, parce que être diagnostiqué d'un cancer, c'est aussi risquer de tomber dans la précarité ou de creuser une précarité déjà là. Et tout à l'heure, tu disais qu'on t'avait parlé de triple ou quadruple peine. Alors, est-ce que tu peux expliquer d'abord de quelle manière agit cette précarisation au moment pendant le parcours de soins? Et ensuite, peut-être plus expliquer ce qu'est la quadruple peine, triple ou quadruple peine, c'est bien ça.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les traitements durent longtemps. En fait, un cancer du sein, c'est sur plusieurs années, même jusqu'à 10 ans quand on prend de l'hormonothérapie pendant 5 ans pour éviter les récidives. Donc, c'est une tranche de vie. Et pendant ce temps-là, du coup, c'est difficilement à certains moments compatible avec un travail. Il faut pouvoir, les personnes travaillent moins, demandent des aménagements, sont en arrêt maladie, donc c'est une baisse de revenus. Et du coup, il y a vraiment cette baisse financière. Et dans le cas d'un cancer métastatique chronique, ça s'étale en fait, enfin, ça dure tout le temps. Donc au bout d'un moment, les indemnités de la sécurité sociale s'arrêtent. On ne peut pas travailler plus que, par exemple, dans le cas de Maëlle, un tiers-temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'allocation adulte handicapé, la reconnaissance de maladie longue durée, c'est des mécanismes qui mettent du temps, mais au final, ça ne compense pas, en fait. Et quand les personnes veulent retourner travailler après, bon, ça, il y a la particularité aussi des trentenaires, où c'est le moment où, normalement, on augmente un salaire. Mais dans tous les cas, quand on veut recommencer à travailler, j'ai échangé avec une personne par mail, ça fait 20 ans qu'elle est traitée pour son cancer, et elle me dit, là, maintenant, moi, j'aimerais bien pouvoir travailler, mais qui va m'embaucher? J'ai besoin de travailler qu'à un certain nombre d'heures, etc. Donc, du coup, ça creuse cette précarité. Et je reprends cet exemple de la personne qui m'a contactée, parce que, du coup, elle est en couple, et elle ne peut pas toucher l'allocation adulte handicapé, l'AAH, parce qu'en France, elle s'est conjugalisée. Donc, quand la personne est célibataire, elle touche son indemnité. Mais dès qu'elle se met en couple et qu'il y a un revenu qui est minimum, en fait, elle perd. Et donc, elle me dit, je dépends de mon conjoint. J'ai 50 ans, je dépends de mon conjoint. Je ne peux pas travailler. Donc, ça touche particulièrement... ça touche l'aspect aussi économique. Et pour les femmes, il y a cette question de triple, quadruple peine, puisque les tâches qu'elles effectuent ne diminuent pas. Et là, je rappelle pour les personnes qui l'ont peut-être déjà entendu, une étude de 2009 qui a été publiée dans la revue Cancer aux États-Unis. C'était une étude sur les cancers et la sclérose en plaques. Et sur 515 personnes pendant 2 ans. Et donc, l'étude portait sur l'évolution de la situation personnelle des personnes. Et donc, ils ont comparé les femmes qui avaient un cancer et les hommes qui avaient un cancer. Et en fait, au bout de 2 ans, les femmes étaient quittées par leur conjoint 6 fois plus que les hommes. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que les femmes restent quand leur conjoint est malade. Elles sont là, elles s'en occupent. Et quand c'est elles qui sont malades, moi, c'est vraiment aussi une question qui revient et que je pose tout le temps. Mais qui prend soin des femmes? Qui s'occupe des femmes? Et là, j'ai vraiment quand ce chapitre-là, mais j'avais les tripes, enfin partout, mais je suis là vraiment, j'oublierai pas quand je l'ai écrit. Et j'écrivais je retranscrivais les témoignages des femmes qui me disaient, en fait, il a jamais rien fait à la maison et puis il a pas continué. Et du coup, elles doivent continuer en fait à s'occuper de leurs enfants, de leurs conjoints, de tenir le ménage en étant malades. Et sinon, quand les femmes faillissent à leur rôle social, elles sont quittées. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans la littérature sur les maladies chroniques, sur cette vulnérabilité. Et donc elle est là, la quadruple peine.
Avec Maëlle, tu observes que les voix des patientes donc, sont invisibilisées et avant même d'être invisibilisées, elles sont même empêchées d'exister donc par la société qui ne veut pas voir ou entendre parler de maladies, comme on l'a vu, parce que ça fait peur, par l'autorité médicale qui attend des patients et des patientes qui, elles, se soumettent. Bon. Et dans ce contexte, il y a quelque chose d'angoissant à l'idée de s'exprimer à la première personne. Et je voudrais citer... prêter ma voix à Maëlle juste avant de poser la question des luttes et de la politisation. Je vais la lire un petit peu. Maëlle dit ou écrit, c'est peut-être... elle dit « C'est flippant de parler de soi, de parler vraiment de soi. Je ne veux pas être un témoignage tire-larme sur la maladie. Je ne veux pas non plus me poser en guerrière. Je ne veux pas être un cliché. Et franchement, c'est pas facile. » Tout ça me met face à mes propres contradictions. Et puis en parlant de la réalité crue de la maladie, j'ai peur, de faire fuir. Alors je suis tout le temps tentée d'édulcorer, d'adoucir, de ne pas tout dire, de maîtriser l'expression de ma souffrance. J'ai tellement l'habitude de rassurer. J'ai peur d'être agressive, c'est si confortable d'être mignonne. J'ai peur de culpabiliser d'autres femmes en partageant mon expérience et mes doutes. J'ai peur de me tromper d'objet de colère, d'être irrationnelle. Donc dans ces lignes... On lit les injonctions et les attentes multiples qui sont destinées aux femmes. Et Maëlle l'a saisi, et toi aussi, tu l'écris, vous l'écrivez toutes les deux, l'intime est profondément politique. Et à ce titre, c'est un livre qui s'inscrit certainement dans le mouvement de libération de la parole qui est sur la scène publique depuis quelques années. Alors, est-ce que, pour finir cette discussion, et avant de donner la parole à ceux et celles qui le veulent, est-ce que... tu peux nous parler de justement cette nécessité de politiser cette question du cancer du sein, de la nécessité d'une approche féministe sur le sujet aussi. Et puis, quelles sont les pistes pour amorcer un changement qui semble finalement... il faut qu'il vienne du bas, finalement, des patientes elles-mêmes.
Je me souviens plus si on a mis cette... extrait, enfin je sais plus si c'est dans le livre ou si c'était dans une conversation, mais on faisait la réflexion avec Maëlle que la maladie, elle divise et elle individualise. C'est vraiment un combat contre la mort que vit chaque personne. Et d'où ce que j'évoquais tout à l'heure, la difficulté de s'y replonger quand on en est sorti et de se sentir proche, parce que ça touche des femmes de tout âge, de toute classe sociale. C'est pas un groupe social formé. Le point commun, c'est d'être des femmes, mais l'expérience de femme est très différente. Ce qui n'est pas la même chose que, par exemple, le sida et ACT UP. On faisait ce parallèle où c'était un groupe déjà stigmatisé par la société, des hommes homosexuels, qui faisaient communauté et ont porté cette question de la maladie. Donc, et le féminisme... c'est Maëlle qui le disait, le féminisme porte et rassemble et a justement cette volonté d'assembler et de voir ce qui nous lie et les oppressions qu'on vit et comment est-ce qu'on peut agir contre. Et donc c'est en ça aussi que c'était important pour moi que féministe soit dans le sous-titre. Ça a été aussi une grande conversation, mais pour moi c'est un ouvrage qui parle de santé, mais qui parle aussi d'un regard féministe sur la maladie. Je sais que le podcast, on avait reçu beaucoup de témoignages nous disant que c'était une façon différente d'en parler et que ça manquait et que ça venait combler un vide. Et depuis, je vois quand même de nombreuses initiatives, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ou même à des échelles voilà, locales ou même individuelles, en fait, où on me dit j'ai parlé avec ma mère. Bien sûr, depuis que je travaille sur le sujet, les personnes m'écrivent en me disant voilà, je viens d'apprendre que ma mère, ma belle-mère, ma tante a un cancer du sein. Donc ça me vient aussi à moi, alors qu'avant, j'étais pas concernée, en fait. Et du coup, j'ai en tout cas l'impression que ça ouvre une possibilité de parler du cancer différemment. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord. Et c'est pour ça qu'aussi, j'ai choisi une exploration. C'est la façon dont on a exploré le cancer du sein avec Maëlle. C'est la façon dont Maëlle l'a vécu. Ça peut donner des clés à d'autres personnes. Et ça peut, voilà, ça peut permettre, en fait, justement, de créer ce dialogue au-delà d'Octobre Rose, même d'événements qui sont passés ou d'événements qu'on est en train de vivre. Et donc, là, tu as très justement dit qu'il y avait une nécessité, on disait que de luttes qui viennent du bas. On disait que là, oui, en fait, ce qui est proposé institutionnellement n'est pas cohérent. Il y a des associations qui militent et qui font ce travail-là, mais il y a aussi besoin d'une base pour montrer qu'on est là et qu'on les soutient. Et je trouve que c'est beaucoup demander aux patientes, après tout ce qu'elles vivent, de porter ce combat seul. Donc voilà, ça nous concerne à toutes.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez poser des questions ?
Alors, moi, je n'ai pas vraiment une question. Ce que je vais vous poser là, c'est un témoignage de malade. Et c'est ce sentiment que vous avez apporté au début, qu'on est à la fois confronté à 32 annonces. Hein, on n'arrête pas de vous dire sans vous dire, d'une part. Et d'autre part, qu'on est gênant et même gênante. Et moi, j'avais été extrêmement surprise de rencontrer une profession dont j'ignorais l'existence tout à fait. Alors, c'est terrible aussi dans la discussion qu'on a là, parce que moi, j'ai beaucoup été confrontée à des femmes. Mon oncologue est une femme. Je n'ai jamais vu un infirmier. Et j'ai donc rencontré une socio-esthéticienne. Et moi, naïve que je suis, je pensais qu'une socio-esthéticienne était quelqu'un qui essayait de rendre la société plus jolie, quoi. Eh ben non, c'était juste qu'il ne fallait pas être moche, quoi. Et ça, c'était quelque chose d'épouvantable quand, dans le même temps, la chimiothérapie consiste à vous empoisonner juste assez pour ne pas vous tuer, quoi. Et ça, c'était quelque chose qui a été peut-être le pire de tout. Alors, comme j'ai des très mauvaises manies, j'ai beaucoup fait de bibliographie scientifique et je me suis aperçue qu'il y a des études qui montrent que la fameuse chute des cheveux, c'est ce qui est le plus mal vécu. Il y a eu des tas d'études qui ont été faites, elles sont extrêmement intéressantes pour ça et sur laquelle il n'y a aucune recherche. C'est-à-dire qu'aucun médecin jamais n'a fait une recherche pour savoir en bout de combien de temps les cheveux repoussent, etc., etc. Des fois, ils ne tombent pas, pourquoi ils ne tomberaient pas, etc. Et je me disais, mais quand même, quelle inconscience par rapport à la patientèle, quoi, de ne pas avoir un peu d'empathie avec quelque chose qui vous stigmatise et qui vous met à l'écart de la société, très clairement. On ne vit pas dans des pays asiatiques où une femme chauve est une bonzesse. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup. Je voulais préciser, vous faites bien de signaler, parce que c'est quelque chose aussi qui revient régulièrement aussi dans la question de gynécologie, de dire c'est des femmes ou des hommes soignants. Et en fait, c'est pour ça que je parle de sexisme, parce que c'est vraiment la médecine qui a ce regard sexiste sur les femmes, et c'est la formation dont on parlait. Donc, c'est pas lié au genre des médecins, c'est vraiment lié à la façon dont la médecine est enseignée et à la différence de pouvoir. Et le pouvoir, voilà, bon là je fais un peu l'anthropologue, mais en fait, voilà, le pouvoir est du côté masculin, si on regarde ça en dualité. Donc oui, c'est vrai que même certaines personnes vont plutôt choisir des femmes, alors qu'au final, voilà, c'est pas tant cette question-là. Mais ce que je remarque en revanche, c'est que dans les mouvements de médecins et d'étudiants en médecine engagées, c'est des étudiantes, en fait. C'est souvent aussi des femmes, jeunes générations féministes qui remettent en question ces structures de pouvoir. Donc, il y a de l'espoir pour les générations à venir.
C'était la rencontre avec Monia El-Khotny autour du livre coécrit avec Maëlle Sigono, Impatiente, une exploration féministe du cancer du sein, paru aux éditions First.
Radio Livre Dormir.